En compagnie de Pierre Ducrot, de Jonathan McCarty et de nos drôles de dames, bonsoir Fred Hermel.
Hola chicos.
Comment il va Fredo?
Ah, il va bien, il a vu des beaux matchs hier, tout ça, et ouais. Ça va bien, voilà.
Très bien. Julien Laurence aussi est avec nous, bonsoir Julien.
Good evening, bonsoir à tous.
Comment il va?
C'est Julien.
Superbe, superbe.
T'as recrevé, dis donc.
Tu trouves?
Bah, ouais, non, c'est l'homme d'aller des week-end
et la fake up. Ah, tu sais.
C'est quoi? Pourquoi il fait comme c'est quoi? Il y a un nom codé?
On peut pas tout raconter.
Ouais, parce que ta femme écoute quoi.
Bah elle est juste à côté là.
Ah bah oui. Voilà.
C'est l'avantage d'être un vieux célibataire comme moi, tu vois.
Ah. Un vieux célibataire et qui accueille les copains, dont Simone Rovera et Madame Rovera. Ciao Simone.
Ciao.
Bonsoir. C'est vrai, il n'y a pas si longtemps que ça, elle était chez Fredo, Madame Rovera.
Oui, elle est rentrée.
Ah là
donc,
là. Elle est rentrée. Elle t'en parle encore, il paraît, non?
Ouais. Ouais, elle devrait venir à Madrid en 10 ans, des jours, 15 jours.
Ça t'inquiète pas, toi.
Ouh là, des questions, toi.
Il est heureux, là.
Bah écoute, quand non. Tu dois aller à Madrid, il n'y a qu'une adresse. Non, il y en a deux.
Ouais, il y a la Tour Eiffel à Paris, il y a Fred Hermel à Madrid.
Il y a Fred Hermel, donc.
Je suis sympa.
Après le Père d'Abbayou quand même. Hein. Ouais, et le Prado, allez, en numéro 3.
C'est vrai.
Bah je sais pas.
David Lortolari aussi est avec nous. Comment il va mon David?
Allô, Brenda, salut messieurs, salut à tous. Alors moi, contrairement à Fred Hermel, je vois des bons matchs tous les week-ends.
Oh, bah voyons.
Le vieux célibataire là, tu vois.
Tu nous as pas dit ce que tu regardais, cela dit.
Match de Bundesliga, naturellement.
Voilà, précisément.
Ah oui. Je n'ai pas le temps de regarder les autres, désolé.
On va débuter ce Tour d'Europe par l'Espagne. 21e journée de Liga ce week-end. Le Barça s'est imposé à Gérone 2-0. Victoire de l'Atlético 2-0 aussi face à Getafe. Le Real s'est imposé à Barcelone face à l'Espagnol 4-2. Séville explose les 25-0. Valence bat Villarreal 3-0. Et l'Atlético Bilbao a battu le Betis 1-0. Jingle, ringle. Fred Hermel.
C'est justifié ou pas?
Ça fait un peu peur quand même.
Mais moi, j'imagine Fred, quand il est avec des femmes, leur dire ça au lit au moment conclure.
C'est Fred. Me disait, 1h30 d'émission, première
sexe de la part
de Jonathan McCarty. Il était temps. Alors, la vie tranchée, alors, il jingle de circonstances puisqu'il concerne Benzema. Alors, pour toi, mon Fredo, Benzema est passé de Sancho Panza à Don Quixote. Don Quichotte d'ailleurs, pas Quichotte.
Ouais. Don Quichotte. Mais en fait, c'est hier soir, tu vois, j'ai c'est une sorte de petit teasing hein, quand on a fait les commentaires du match de cette victoire du Real 4-2 sur la pelouse de l'Espagnol.
Il a claqué un doublé.
Je me suis un petit peu trompé parce que il est encore un peu Sancho Panza. Sancho Panza, vous savez l'image du serviteur.
Il va falloir rappeler qui c'est, Fred. Pour,
voilà,
le serviteur de Don Quichotte.
Voilà, le serviteur de Don Quichotte.
Il faut obligé de savoir, Monjo.
Non, mais t'as raison. Il faut préciser. Donc on a le Hidalgo, quoi, le
sélectionneur.
Don Quichotte, le leader, etc. Et on va dire que c'était Cristiano Ronaldo l'an dernier. Et à côté, vous avez Sancho Panza, parce que Benzema était au service de Cristiano. On le sait tous. Il n'osait même pas trop marquer des fois pour pas déranger. Et là, cette saison, avec le départ de Cristiano, Benzema, il est le meilleur buteur du Real Madrid. C'est quand même 15 buts, meilleur buteur avec 15 buts toute compétition.
Une belle saison.
Depuis le début de la saison, ce qui est loin d'être mal. Surtout dans une équipe qui a très mal fonctionné jusqu'à il y a 3 semaines. Hein, ouais. Parce que là, faut voir aussi, c'est quand même plus facile de marquer dans une équipe qui marche bien que dans une équipe où t'es un peu le seul à être à peu près à ton niveau. Et c'est vrai qu'il est devenu le Don Quichotte, hein, puisque c'est lui le leader aujourd'hui, mais il reste aussi, malgré tout, Sancho Panza, parce que hier, le match exceptionnel qu'il fait, considéré en Espagne comme le meilleur match depuis qu'il est au Real Madrid, et pourtant, il a marqué. Ah oui, mais ça dégouline de partout aujourd'hui. Même moi, ça me gêne.
Bah, les lignes de Marca et de As,
non,
c'est pas
mal. Non, hein.
Le magicien Karim, titre ouais. Marca ce matin, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Hein.
Ouais. Et Inmejorable, alors, impossible de faire mieux le titre de As. C'est-à-dire que Benzema, les gens le comparent à Messi, tout ça. Non, mais il y a une chronique dans Marca, on dit, il n'y a que Messi qui peut offrir des trucs pareils que comme a fait Benzema hier. Enfin,
c'est vrai, il a été éteint. Moi, quand Fred nous en a parlé hier.
Le match, du coup.
Ouais, du coup, je me suis refait le match, parce que je me suis dit, c'est pas possible, Fred, il s'enflamme. Eh ben non, Fred, il s'enflamme.
J'avais
pas,
été très calme,
hier. Ouais, non. Et franchement, il fait un très, très, très gros match. Il a quasiment rien raté. Non, et puis il a une vraie influence dans le jeu, t'as raison, quand il décroche.
Il fait
le jeu et il est à la finition. Donc c'est impressionnant.
Tiens, je voulais une déclat quand même de Lucas Vázquez à la fin du match. Il est en train de montrer qu'il est le meilleur neuf du monde, dit-il en parlant de Benzema. Oui, il met des buts, il travaille avec les autres. C'est merveilleux de jouer avec lui. Voilà ce qu'a dit
Lucas Vázquez.
Un neuf qui reste aussi longtemps performant à la tête d'une des meilleures équipes.
du monde.
Meilleur neuf du monde, c'est quand même un des meilleurs neuf du monde, mais pas le meilleur neuf du monde.
C'est Lucas Vasquez, son coéquipier qui le dit. Parce que Lucas Vasquez, il est meilleur aussi quand il joue avec Benzema.
Bien sûr.
Le petit Vinicius, là, il est en train d'apprendre beaucoup de choses avec Benzema. D'ailleurs, le deuxième but de Karim, c'est à 1-2 que provoque Karim avec Vinicius dans la surface, avec cette frappe un petit peu enroulée là, qui est pas très belle, mais qui est très efficace, qui est très dur à exécuter. Moi, ce que je trouve simplement, c'est que Karim Benzema aujourd'hui a retourné les gens d'une manière qui moi me gêne un petit peu, parce que ces mêmes personnes qui le sifflaient, qui l'insultait dans les journaux à Bernabéu, et moi j'ai eu des discussions avec des types, parce que moi je vois les matchs en tribune de presse et juste la file en bas c'est le public. J'ai eu des débats avec des gens, etc., au niveau de Benzema, et là tout le monde se met à genoux devant lui de manière un petit peu trop, un peu too much malgré tout, parce que il était Benzema a toujours été un bon joueur, c'est-à-dire que même s'il est le chouchou de Florentino Pérez, il ne serait pas arrivé à sa 10e saison s'il n'avait pas été un super joueur. Un type qui joue avec Ancelotti, avec Benitez, avec Zidane, avec Lopetegui et avec Solari. Bon, il y a un moment, on peut se demander.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est tout. Et là, aujourd'hui, je pense que Karim Benzema, ça me paraît hallucinant de dire ça au bout de 9 ans et demi. Il a enfin convaincu tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai des chroniqueurs qui tapaient sur Benzema d'une manière. Mais c'était même indécent, moi ça me faisait mal, mais d'un point de vue humain. Je me dis, mais Karim, à un moment, je lui ai même dit, je vois pas, tu devrais te casser, quoi. Parce que c'est insupportable ce que tu es obligé d'écouter ici, quoi. Et lui, il a travaillé, et aujourd'hui, tout le monde a retourné Kazakh, comme on dit chez moi, et Benzema, aujourd'hui, est considéré, mais il n'y a pas un doute, vous demandez à n'importe quel journaliste sportif en Espagne, n'importe quel dirigeant, n'importe quel supporter du Real, ils vont tous vous dire, le meilleur joueur du Real Madrid aujourd'hui, c'est Karim Benzema.
Mais les critiques, Fred, elles venaient... c'était pas des critiques purement objectives sportivement.
Non.
C'est tout ce qui concerne autour de Karim Benzema, en fait.
Mais c'est-à-dire, surtout, ceux qui voulaient attaquer Florentino Pérez, le président attaquait Benzema.
Ouais.
Parce que c'est son chouchou, parce qu'il a toujours misé sur lui, parce qu'il a refusé des offres énormes, de l'étranger. Il y a même une offre, il y a 7-8 ans du Paris Saint-Germain, énorme, et le président, la refuse, Benzema la refuse.
À Manchester aussi, non?
À Manchester aussi, il y avait des offres tous les ans, de Karim Benzema.
Et Fred, je m'avance un peu, mais à ton avis, quelle place sera celle de Karim Benzema quand il quittera quand sa carrière sera terminée, quelle place il occupera dans l'histoire du club?
Eh ben déjà là, il a
galé Hugo Sanchez là.
Hugo Sanchez. Alors les jeunes,
costaud,
connaissent pas forcément. Mais Hugo Sanchez, c'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Aujourd'hui, Karim Benzema a rejoint Hugo Sanchez à la 6e place des buteurs historiques du Real Madrid, quoi.
Mais quand même, quoi.
Plus de matchs. Alors on va calculer l'efficacité par rapport au match. C'est-à-dire Karim Benzema met 0,46 buts par match, quasiment un demi-but par match. C'est un meilleur ratio que Raúl, Santillana, Butragueño. Des buteurs historiques. Mais à côté de ça, Karim Benzema est aussi aujourd'hui le meilleur passeur du Real Madrid avec Gareth Bale. C'est-à-dire qu'il a cette double casquette, et il a fait une déclaration hier après le match qui était très belle. Il a dit « Je suis un numéro 9 avec une âme de numéro 10 ». Et je pense que c'est la meilleure définition qu'on puisse donner aujourd'hui de Karim Benzema. Alors je sais que beaucoup d'auditeurs vont dire « Ah, t'en fais trop Hermel », etc. Mais je demande simplement à ces gens, comme Pierre, d'être un peu consciencieux et de regarder le match qu'il a fait hier, et vous verrez que ce fut absolument un délice.
Ouais, non, moi je te rejoins. De toute manière, j'ai toujours
pour
pensé
finir sur Benzema.
Ouais, j'ai toujours pensé que effectivement sportivement, il avait ça fait longtemps maintenant, il a toujours été dévalué ce joueur-là. Après on sait pourquoi nous ici en France, malheureusement pour lui.
Non, mais il était aussi dans l'ombre d'un extraterrestre en Real ces dernières années. T'avais quand même Ronaldo devant, donc
c'est
dans l'ombre ou au service de.
On va pas refaire le débat parce qu'il y a des raisons autres extra sportives à ça.
Mais
ne pas voir un Karim Benzema ces dernières années en équipe de France, tu m'expliques pourquoi? Sportivement, c'est impossible.
Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que du sportif là-dedans.
C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que je te dis objectivement, sportivement, moi je suis d'accord pour dire que c'est un des numéros 9
sportifs.
De quoi?
Une raison sportive.
Ah ouais.
Bah son historique en bleu.
L'historique
la performance.
Ouais. Je peux t'en sortir pas mal quand même ils ont un historique encore moins bon que lui et qui ont été plus longtemps.
Tu sais ce que te répondra Deschamps?
Tu peux dire cousin.
Oui, cousin.
Tout le monde le sait.
Non, mais il va te dire qu'il a été champion du monde sans lui. Voilà, qui fait
oui, bien,
l'euro,
voilà.
Bien, fait, voilà.
Bien sûr. Mais ça, malgré, malgré tout, les amis, c'est du passé, là. C'est,
bien sûr.
Giroud a tiré un trait là-dessus. Et en plus, j'ai oublié de dire un truc. Deux choses. Karim Benzema joue blessé, hein. Joue avec son doigt et il a mal, hein. Il a encore mal, hein.
C'est vrai.
Mais avec cette attelle, etc. Et simplement, une petite chose par rapport à ça, parce que c'est hyper important. Il faudra qu'un jour on discute. Ronaldo était essentiel dans la carrière de Benzema, mais il y a un moment où il fallait que Ronaldo parte pour que Karim Benzema puisse grandir et prendre de l'importance.
Ah, mais attends, et Benzema aussi a été essentiel dans la carrière de Ronaldo.
Bien sûr, bien sûr.
L'inverse,
mais
c'est vrai.
Pour que Benzema brille autant aujourd'hui, il fallait que ce duo, ce couple se sépare. Et ils s'aiment beaucoup, ils se respectent énormément. Mais finalement, de tous les successeurs possibles, okay. Le seul qui aujourd'hui tient la route, c'est Karim Benzema.
Un mot sur le Barça, Fredo, alors qu'il s'impose 2-0 à Gérone, alors qu'il gagne, mais c'était pas fameux pour le Barça. On rappelle, hein, adversaire de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, voilà. En 8e de finale. Hein.
Bah moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle pour Lyon, quoi. C'est-à-dire que le Barça nous habitue tellement à gagner avec la manière que parfois il faut être besogneux, il faut être conscient que c'est un mauvais jour et on gagne quand même. Voilà, c'est ce qu'a fait Valverde hier avec ses changements. Il gagne 2-0 sur la pelouse de Gérone. Même Messi qui marque un but est pas bon dans le jeu. Enfin, c'est vraiment un match assez moche. Mais c'est là la puissance du Barça. C'est la raison pour laquelle.
Qu'est-ce qu'a fait la Juve ce week-end aussi?
Ben voilà, il y a des moments, il y a des matchs que tu écœures tout le monde, quoi. Parce que tu joues mal et tu gagnes 2-0 à l'extérieur quand même.
C'est là où ça fait
et
mal,
hein. Ça, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour Lyon. C'est-à-dire que, oui, le Barça peut, dans le jeu, avoir une sale journée et puis gagner quand même à Gerland, ouais, par exemple. Ouais. Voilà, c'est ça qui est terrible. Alors, je sais que des gens trouvent que c'est pas beau de dire ça, mais c'est une réalité. Non, le Barça ne joue pas toujours bien. Mais je ne connais aucune équipe qui joue toujours bien. Mais il y a des équipes et le Barça c'était un petit peu son défaut à l'époque du scoumoutisme de Guardiola, c'est que le Barça ne savait pas gagner en jouant mal. C'est-à-dire que quand ça jouait mal, il perdait. Là il y a quand même du métier, il y a quand même beaucoup plus d'alternatives dans le jeu, on le sait, qui fait que
il faut savoir gagner à la salo de temps en temps, hein. Dans l'histoire.
C'est là, c'est pas la salo, c'est pas salaud, mais c'est sans briller.
Voilà.
C'est sans briller.
On se comprend.
Et en se disant, à un moment, on n'arrive pas à faire mieux, donc on fait rentrer un autre milieu de terrain pour tenir la balle. Et puis, il faut que le temps se passe, quoi. Voilà.
Alors, Fredo, on va passer à ton cador et ton bidon également du week-end, de la semaine même d'ailleurs. Alors, ton cador, il concerne un joueur de l'Atlético. Là, on profite pour dire que c'est officiel. Alvaro Morata, du côté de Chelsea. Voilà, il sera prêt, du côté de l'Atlético. Il sera prêté par, Chelsea.
L'ami de Fred, ça, c'est.
Non, mais c'est-à-dire que moi j'ai rien contre le joueur, mais c'est quelqu'un qui a un entourage. Mais là, je pense que c'est un exemple d'un entourage.
Imagine si le papa de Morata se mariait et était maquillé avec la maman de Rabiot.
Bah oui, mais c'était une bonne définition. Non, mais c'est-à-dire qu'il est en train de cacher la carrière de son gamin, quoi. C'est terrible, quoi. Parce que Simone, il a foutu le bordel, Alfonso Morata, la Juve aussi. Il y a eu plein de problèmes.
Alvaro, ouais.
Alfonso, c'est le père.
Ah, pardon.
Pour ça, Alfonso, le père, parce que les échecs de Morata,
il était moins influent aussi au niveau médiatique, mais c'est vrai qu'à un certain moment, il faisait sortir des choses, on savait que de qui arrivaient les infos. C'était moins puissant qu'en Espagne, mais quand même,
en Angleterre.
S'il avait vraiment, les joueurs laissaient des très bons souvenirs, mais si la Juve, voulait vraiment les reprendre, la répris, donc.
Et en Angleterre, c'était comment, Julien?
Il a lâché très vite chez nous. Il a lâché très vite au milieu de
Sarri,
cette saison.
Ah, Sarri l'a bien aidé à lâcher aussi, hein, mais
Ouais, mais à un moment, tu peux quand même essayer de te battre pour ta place, pour être meilleur, et très tôt, il leur a dit qu'il voulait plus jouer pour Chelsea, que c'était terminé, qu'il fallait qu'il parte en janvier, etc. Il en avait vraiment marre. Mais très vite, si tu veux, il n'y a pas vraiment eu de rébellion mentale en se disant voilà, ça marche pas pour l'instant, mais je vais tout faire pour que ça marche un moment, et il a décidé de lâcher très vite.
C'est beau, hein, de faire tous ces clubs là sans que jamais ça se passe réellement bien, quoi.
Il a quelques bonnes périodes quand même. Il a quelques bonnes périodes, mais
ça finit toujours mal.
C'est un joueur d'énorme qualité quand même, ce qu'il peut faire.
Oh. Ton bidon, mon Fredo, cette semaine. Alors l'indicateur, c'est Lucas Hernandez, hein, qui a joué latéral et défenseur central avec l'Atlético.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que comment tu peux être dans le même match, faire deux postes qui sont quand même différents. Je suis désolé, c'est pas la même chose, quoi. Latéral gauche, il débute. Première mi-temps parfaite de Lucas. Un peu après mi-temps, Godin est blessé. Lucas passe défenseur central et il est aussi bon. Et ça, c'est un bonheur d'avoir un joueur comme ça.
Fred, tu sais, ça fait des années que je le pense, mais en plus, toi, tu les as tous, mais pour moi, c'est le meilleur défenseur central français.
Bon, Gustavo l'a fait à l'OM, hein.
Pour moi, Lucas Hernandez est meilleur que Varane.
Ah bah oui, on est là. Villarreal qui est 19e de Liga, qui a pris une grosse tarte ce week-end.
Mais ça, c'est bon. Bah, c'est, là, c'est mon bidon, c'est que ouais. Villarreal, c'est une équipe quand même qui jouait la Ligue des Champions il y a pas si longtemps. C'est une équipe qui est qualifiée là pour les 16e de finale de la Ligue Europa, et c'est une équipe qui est aujourd'hui 19e. Avec, en plus, comme le Rayo a gagné ce soir, bah tiens, on va regarder la comme le Rayo a gagné ce soir contre Alavés, l'écart commence à devenir assez important et viral, file vraiment un mauvais coton, quoi. Donc, à un moment, il y a des bons joueurs, mais ça marche plus, quoi. Et okay. Voilà. Donc, alors, je vais regarder l'actualisation. Nanana, ouais, Villarreal est 18e. Avec le Celta qui est 21e et le Rayo Vallecano qui est 23e, 17e et qui
sort de la zone rouge. De la 17e place.
Ouais, et surtout ça c'est bloqué et je vois pas comment ils vont. Je pense qu'ils vont devoir lâcher la Ligue Europa parce que à un moment il y a une urgence qui est restée en première division quoi.
Merci mon Fredo, dans quelques instants la Serie A avec Simon.
Ah, je reste. Hein.
Ah bah oui non mais tu restes là mais merci pour merci pour la qualité de tes informations.
Non parce que j'ai entendu un ciao donc
non, c'est moi. Je me suis mépris.
Ouais bah tu t'es mépris. À tout de suite. Pas ou quoi. De Jonathan McCarty, de Pierre Ducrot et de nos drôles de dames. Direction l'Italie, 21e journée de Serie A. La Juve s'est imposée à Rome face à la Lazio 2-1, 0-0 entre Milan et le Napoli. 3-3 entre l'Atalanta et la Roma. Et puis l'Inter s'est incliné sur la pelouse du Toro 1-0. Jingle, Simone Rovera. T'as un animal de compagnie, toi, ou pas?
Oui, un chat.
Perry.
Et à quoi ça sert? Tu lui parles et tout?
Ouais.
Et ça va, Perry? Ouais, t'es content?
Oui. Je l'ai fait jouer. Je lui lance les jouets, les petits
ballons. Les petits
ballons. Ouais.
Et tu le ramènes ou pas?
Non.
C'est incroyable, hein, ce qu'il dit, Daniel, hein, ce qu'il dit. Hein.
Je commande pas. Je trouve ça choquant.
Attends, Perry.
Personne qui n'aime pas les animaux.
Ce sont les jingles. Comment tu les commentes?
Je me souviens jamais du nom de l'autre, là.
Hagrid.
Hagrid?
T'en as deux maintenant?
Ouais. Ouais.
Et le deuxième te sert à quoi par rapport au premier?
Vous savez pas ce que c'est que de rentrer chez soi et de voir l'amour dans les yeux d'un chat et d'un chien qui t'attend dans la maison, c'est mieux qu'une femme presque.
C'est deux chats là, non?
Autant la remarque de Daniel et idiote, autant la tienne, elle est pas loin de la sienne.
Je parlais d'affection,
même au-dessus.
Je parlais d'affection, vous êtes l'esprit mal placé, c'est pas de ma faute.
On ne compare pas.
Simone! Victoire de la Juve hier face à la Lazio. La Juve qui compte 11 points d'avance sur le Napoli. Et pourtant, ça n'a pas été fameux pour la vieille dame hier.
Non, c'était même horrible. C'était affreux le match pour 60 minutes de la Juve. Non, mais la Juve pour 60 minutes s'est fait marcher dessus.
De la Juve, parce que la Lazio joue bien.
La Lazio jouait très bien. La Juve s'est fait marcher dessus pour 60 minutes. Après, il y a certains joueurs. Déjà, il y a un certain monsieur sur les bancs des touches qui fait des bons choix. Il a la possibilité de choisir des joueurs qui sont sur les bancs qui sont capables d'échanger le match. Ça a été le cas pour Bernardeschi et Cancelo qui revient des blessures.
Cancelo,
il a été déterminant avec un but en pénalty procuré. Mais on peut s'inquiéter un peu pour la Juve, même si je suis convaincu que c'est best of form, c'est dû à un travail spécifique qui a été fait pendant la trêve. Après, il y a eu cette voyage à Gueda pour la finale des Supercoupe qui quand même a un peu bousculé les habitudes. Il y a eu ce changement de température, aller-retour. Donc je trouve aussi que pour quelques jours, la Juventus n'a pas pu s'entraîner au top. C'est une machine qui va besoin de continuer à tourner à certaine vitesse pour pas trop baisser des régimes. Mais globalement, ce que nous a dit ces matchs face à la Lazio, c'est que la Juve, même quand elle joue mal, voire très mal, elle est face à une équipe de haut niveau, de haut de tableau, qu'on a vu jouer même en Europa League faire des bons matchs cette année. La Juve, ça suffit 15 minutes. Ça suffit 15 minutes des Juve, même pas de la meilleure Juve pour
renverser un score.
C'est une équipe, tout simplement. Après, honnêtement, la Lazio peut tuer le match avant aussi. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux, parce que la Juve revient bien dans le dernier quart d'heure, je suis d'accord avec toi. La Lazio peut tuer le match avant et là ils reviennent plus.
C'est la différence entre quand tu as des attaquants de haut niveau. Après, même Cristiano a fait un match pas très beau.
Non.
Je dirais même négatif sur la même ligne de celui face au Chievo. Face au Chievo, il avait raté un penalty. Là, il les met. C'est beaucoup plus important celui qui met hier soir, celui qui rate face au Chievo. Mais dans la Lazio, on a vu certaines limites que j'ai toujours trouvées sur Immobile.
Immobile,
attaquant très bon, souvent décisif, mais qui dans les grands rendez-vous, parfois tu t'es dit, c'est incroyable, hier il rate deux occasions, un attaquant, meilleur buteur de la Serie A en passé, et qui devrait être le numéro 9 de la sélection, on a toujours dit le 9 de l'Italie, qui montre d'avoir quelque chose qui manque pour être bon niveau au très grand niveau.
Alors la Serie A, on est d'accord, c'est déjà quasiment plié, mais toi t'en as vu trop.
Oui, il y a seulement une fois, après 21 journées, il y avait une équipe qui avait 11 points d'avantage sur la deuxième. C'était en 2006-2007, c'était l'Inter. Mais on se souvient que ces championnats, 2006-2007, c'était les championnats après Calciopoli, sans la Juve, avec les équipes pénalisées.
Tu veux donc dire que là, le championnat est truqué.
Encore. Je vais dire que l'Inter avait fait une très belle saison cette année-là, mais manquait certains adversaires des très hauts niveaux, surtout dans les classements.
Quand je dis le championnat est plié, c'est-à-dire donc t'as la Juve leader avec 11 points d'avance sur le Napoli, le Napoli qui a 8 points d'avance sur l'Inter, qui a 5 points d'avance sur Milan. C'est vrai qu'il y a quand même des gros écarts. Ouais. Cela dit, t'as un avis tranché, toi.
Oui.
Toi, tu dis la Coupe d'Italie, alors qui va se jouer d'ailleurs cette semaine, elle va relancer la saison. On donne quand même le programme des quarts de finale. Il y a demain Milan-Napoli, mercredi il y a Fiorentina-Roma, il y a Atalanta-Juve aussi, et jeudi il y a Inter Lazio également. Et toi, tu penses vraiment alors que ça peut relancer la saison?
Déjà, je trouve que cette fois, on a des matchs de très haut niveau, surtout avec des possibilités, les matchs d'élimination directe. Donc, des possibilités de voir la Juve se déplacer sur le terrain de l'Atalanta.
Une machine à marquer.
Qui l'a mis, oui, mais meilleure attaque de la Serie A, l'Atalanta, et qui a eu l'Atalanta. C'est l'équipe qui a mis plus en difficulté sur la fin de saison de l'année dernière, la Juventus. Bon, je dirais même plus que a fait la Lazio hier soir, parce que l'Atalanta avait vraiment dominé la Juve, mais même d'un point de vue de vue physique, c'était l'Atalanta, c'est une machine magnifique à voir jouer.
Ouais, c'est clair.
Et après t'as ces Milan Napoli avec toutes les histoires qu'il y a, Gattuso, Ancelotti, c'est les débuts, ça va être le premier match titulaire de Piontek. La Fiorentina Roma, c'est souvent des beaux matchs, et après il y a Inter Lazio qui sont un peu déçus ces week-ends, bien sûr, pour les résultats. L'Inter a perdu la face au Torino, un match vraiment une des pires matchs de l'Inter de la saison, peut-être les pires, avec plein des choses qui n'ont pas marché, dont je vais parler plus tard.
Non, mais dis-le maintenant, d'ailleurs, ton boulet, tu voulais le mettre là, c'est Perisic.
C'est Perisic qui n'a pas joué parce qu'il n'est pas concentré, parce qu'il a demandé de partir. C'est en période où il a fini, c'est sa pire saison depuis qu'il est arrivé à l'Inter. C'est un joueur qui, après la finale de la Coupe du Monde, n'a plus montré les niveaux qu'il a, et qui, en plus, fait la gueule, demande à partir, et ses agents, son entourage, n'arrivent même pas à présenter une offre pour partir. C'est-à-dire, il y a une offre des prêts d'Arsenal. Il y a une offre des prêts d'Arsenal qui met 4 millions sur la table pour le prêt, et une option d'achat derrière. Un joueur comme Perisic, finaliste de la Coupe du Monde, un joueur qui marque généralement 7, 10, 12 buts par an, un ailier très offensif, peut pas partir de l'Inter, et ce qu'il a dit, soit Marotta, soit Spalletti ce week-end, peut pas partir de l'Inter, penser de partir en prêt, et demander peut-être aussi que l'Inter maintienne à payer un certain parti des serres. C'est ridicule cette histoire, et Perisic, dans un des pires moments de l'Inter de la saison, d'être un des joueurs majeurs et se montre un joueur mineur. Donc pour moi, c'est mon
boulet.
C'est les boulets de ce week-end. Mais pour terminer, c'est avec la Coupe d'Italie. C'est 4 ans que la Juve gagne. Cette année, tu as des équipes qui ont envie de gagner beaucoup plus. T'as le Napoli qui va jouer au fond. On se rappelle, saison dernière, Napoli a été éliminé par l'Atalanta, mais avec un match plein de remplaçants, avec pas d'envie. La deuxième chose positive, on peut dire que ça arrive un mois plus tard, les quarts de finale en rapport à la saison dernière. Donc, quand même, on s'est rendu compte que le championnat est beaucoup plus plié que la saison dernière, quand Napoli avait des espoirs et il y avait une lutte pour la Ligue des Champions qui comprenait plus d'équipes. Là, je vois l'Inter quand même, s'il fait pas des suicides incroyables, être plutôt rassuré de sa troisième place. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans cette possibilité de gagner un trophée, et surtout une équipe comme Napoli qui a une vraie envie d'aller gagner quelque chose cette année. Je trouve que ça peut être vraiment les moments qui relancent un peu, qui donnent quelque chose de croustillant dans la fin de saison de certains clubs de Serie A.
Voilà, on rappelle,
j'ai une question importante.
Vas-y, Fredo.
Si tu me permets. Non, parce que on pense déjà à la Ligue des Champions, en exclusivité sur RMC Sport. Bonucci, alors il sera pas à Madrid pour le match contre l'Atlético?
Bonucci sera pas à Madrid. Dans les mauvaises choses de ce week-end de la Juve, il y a cette entorse avec un intérêt au ligament pour Bonucci qui serait absent un mois, on part d'un mois d'absent, ça peut être, on sait même plus, hein, c'est même moins. Mais donc, Bonucci, on dirait que non, il est forfait pour Madrid. Et la chose un peu incroyable, c'est que les mauvais timings choisis par Benatia pour partir, parce que il a voulu partir à tout prix pour jouer, pour aller faire un gros contrat au Qatar. Il a été officialisé ce soir par la Juve, 8 millions. Plus de bonus, malheureusement pour lui, c'était le moins intéressant où pouvait jouer même les gros matchs. Il a préféré un choix financier, économique, un énorme contrat plutôt qu'être remplacé à la Juve. Moi, je trouve que un grand joueur peut toujours accepter d'être numéro 3 derrière des joueurs comme Bonucci, Chiellini. C'est pas une honte d'être numéro 3.
Qui va jouer alors?
Rogani.
Un mot également sur Bologne, merci. Alors qui a changé d'entraîneur. Alors avec une histoire un peu marrante, rigolote ou curieuse du moins, bah c'est que donc Pippo Inzaghi se fait virer, il est remplacé par Mihajlovic, ouais. Et c'est pas la première fois que ça arrive ça.
C'est arrivé en 2015 sur le banc du Milan, et pour Mihajlovic c'est un retour à Bologne, il avait déjà entraîné là il y a 10 ans.
Ah oui.
On verra, je trouve que c'était Inzaghi a plein de défauts en tant qu'entraîneur, c'est un entraîneur qui n'arrive pas à tenir l'équipe, c'est un entraîneur qui n'a pas des énormes idées en cours de match. Hier, Bologne a perdu à domicile 4-0 face à Frosinone. Il était resté à 10 après 13 minutes. Il se fait un peu trahir par ses joueurs aussi, Inzaghi. Mais évidemment, c'était une histoire qui n'avait plus d'avenir, celle d'Inzaghi sur les bancs de Bologne.
Et alors, la belle histoire, le joueur extraordinaire, le meilleur buteur de Serie A, bah, il a 35 ans. C'est Quagliarella qui a encore marqué et qui a même égalé le record de Batistuta.
Historique, oui. Il y avait les larmes aux yeux dans l'entraînement.
Ça fait 11 fois d'affilée qu'il marque.
Ça fait 11 matchs d'affilée. Qu'il marque au moins un but, Quagliarella. Il était ému de dire j'ai fait quelque chose qui m'a mis au niveau de Batistuta. C'était incroyable. C'est un joueur de 36 ans qui va fêter 36 ans. C'est un attaquant très généreux, très talentueux. C'est généralement quand on regarde les plus beaux buts du championnat italien, dans les top 3, il y a toujours une but de Quagliarella avec des frappes de 30-40 mètres, des talonnades,
50
des acrobaties, des acrobaties incroyables. C'est un magnifique joueur de football qui est arrivé à la maturité. Plus un peu tard, imaginez, il a 36 ans, il a marqué à la, je vais dire, en 150 buts, c'est peut-être un peu plus, en Serie A, et la moitié l'a marqué après 30 ans.
Ah, c'est dingue.
C'est-à-dire, la moitié de ses buts sont arrivés à la maturité. Les seuls joueurs qui marquaient un pourcentage plus de buts que lui après les 30 ans, c'est Toto Di Natale, et on retrouve un peu la même carrière de Quagliarella et Toto Di Natale, c'est-à-dire dans une équipe un peu plus de Provence, c'était Udine, là c'est la Sampdoria, s'épanouir et avoir envie de donner le maximum et continuer à jouer pour l'amour du football jusqu'à la fin de sa carrière.
On va dire Quagliarella, c'est ton cadeau du week-end.
C'est mon cadeau, oui.
On aurait pu mettre Zapata qui est aussi sur une belle série, mais
Zapata,
ton coup de cœur. Je sens que c'est plus un coup de cœur.
Bah, c'est ce qu'il fait avec à 36 ans. On était ici samedi soir, on parlait avec Ludo Bragnac, qui a 34 ans, et je disais, toi?
C'est énorme.
C'est pas une question d'envie, qui d'occasion, etc. Mais à 36 ans, tu arrives encore à être performant et vouloir jouer.
À ce poste-là, en plus.
C'est incroyable. Et le prochain match où il peut dépasser ce record, ça sera contre Naples.
Ce sera contre Naples.
Ça du sort un petit peu.
Ouais, ça peut être, oui, l'histoire. Et Baptiste Soutan, 94-95, s'était arrêté face à la Juve.
Grazie mille, Simone. Ciao, ciao. On passe à l'Angleterre. Quatrième tour de la Cup. Alors, je vous donne quelques résultats. Manchester United qui s'est imposé 3-1 sur la pelouse d'Arsenal. Manchester City qui en a claqué 5 face à Burnley. Chelsea qui a battu Sheffield Wednesday 3-0. Palace qui a battu Tottenham 2-0. Jingle, Julien Laurence.
It's an amazing game. It goes 1-0 up for France. 1-1, Messi scores. And Kylian Mbappé, out of nowhere, scores the winner for France.
On va s'arrêter justement sur Tottenham, Julien. T'as un avis tranché qui concerne Tottenham et notamment Mauricio Pochettino. Toi, tu dis, il faut que Pochettino se barre l'été prochain.
Ouais, c'est ça. Je pense que on a la preuve cette saison que ce club est trop petit pour lui, en fait. Que on a vu cette semaine là l'élimination en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Chelsea en milieu de semaine, l'élimination de la Coupe d'Angleterre face à Crystal Palace, comme tu l'as rappelé Nico dans les résultats hier. Ils sont troisième en championnat, ce qui semble être le plafond, en tout cas avec la deuxième place peut-être un de ce qu'ils peuvent encore une fois atteindre cette saison. Le titre, c'est terminé. Ils sont trop loin de Liverpool, comme ils ont été trop loin, mais à la fois trop proches ces dernières saisons. Ils gagnent pas un titre non plus sous Pochettino, mais déjà bien avant. Il y a l'histoire du nouveau stade qui est toujours pas prêt, qui devait être prêt en début de saison, qui est pas prêt.
Quel fiasco, ça.
ce qui fait qu'il a pas d'argent à dépenser ni l'été dernier ni lors de ce marché des transferts là du mois de janvier.
Ils ont pas recruté l'été, hein.
Pas recruté un seul joueur pendant l'été, pas recruté un seul joueur là pendant le mois de janvier non plus. Ils ont un effectif très léger en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité. Ça veut dire que dès que tu perds un joueur comme Kane, bien sûr Kane, mais aussi Dele Alli, comme c'est le cas en ce moment, voire Son qui était à la Coupe d'Asie, il te reste plus grand chose derrière et t'as beaucoup de problèmes après, ben, à gagner, à continuer sur une dynamique de victoire et à rester au contact des plus grosses équipes que toi. Et je pense qu'à un moment, Pochettino est un entraîneur qui mérite plus que ça. Ça n'a rien à voir avec Tottenham, c'est juste l'état dans lequel le club est actuellement avec ses problèmes financiers ou en tout cas ses limites financières. Et le développement que lui a fait Pochettino depuis qu'il est arrivé au club, je pense qu'il a amené le club au plus haut possible, qu'il peut plus l'amener plus haut et que maintenant lui, il va avoir des offres, que ce soit le Real Madrid ou Manchester United, pour lui aller plus haut. Et je pense qu'à un moment, il faut vraiment qu'il s'en aille.
Il avait déjà eu des offres, hein, d'ailleurs. On rappelle que le Barça était intéressé notamment, mais lui, il se considère comme un gars de l'Espagnol, Fred.
Complètement. Oui, tout à fait. Son nom avait circulé et il avait coupé court d'entrée. Il n'y a pas eu vraiment de proposition du Barça, mais enfin, il y a eu un certain intérêt, comme on dit ici en Espagne. Et lui, tout de suite, il dit, oh, non, moi, je suis espagnol, hors de question, on joue au Barça. Mais c'est surtout parce qu'il sait qu'il y a une vraie possibilité pour qu'il aille un jour au Real Madrid.
Bah, donc, cet été déjà, ils ont essayé, non?
Oui, bah bien sûr. Bah au moment du départ de Zidane, il était contre. Mais bon, après le problème, c'est que négocier, et Julien sera d'accord avec moi, négocier avec Dany Lévy, le propriétaire de Tottenham, c'est très très difficile. Donc il fallait un entraîneur tout de suite et ça aurait pris des semaines et des semaines, ça aurait coûté beaucoup d'argent et donc raison pour laquelle Pochettino n'est pas venu cet été. Quoi.
Mais c'est vrai, quand on voit finalement le travail de Pochette, alors ne serait-ce que d'ailleurs en PL, il fait 5e, 3e, 2e, 3e encore. On a l'impression finalement qu'il y a un espèce de plafond de verre. Ça va être difficile
d'aller avec quel effectif il fait ces résultats-là aussi.
Ouais, c'est ce que disait.
Et le truc, c'est qu'à un moment, ici en Angleterre, le grand débat, c'est il faut que cette équipe de Tottenham gagne un trophée, n'importe quoi, une coupe de la Ligue, une coupe d'Angleterre, c'est pas forcément une Ligue des Champions ou un championnat, mais n'importe quoi, un pour garder ses joueurs, parce qu'à un moment, Kane, Ali, Eriksen, ils vont vouloir aller ailleurs, surtout qu'ils vont avoir d'autres grands clubs qui vont venir les chercher, qui vont vouloir les recruter, et là, ils savent très bien que dans ces clubs-là, par exemple, le Real Madrid pour Eriksen, qui pourrait très bien arriver cet été, puisqu'il lui reste que 18 mois de contrat, ouais, il sait très bien qu'il a plus de chances de gagner quelque chose au Real qui est à Tottenham. Il est pas idiot, Eriksen. Donc à un moment, voilà, pour débloquer, si tu veux, la barrière un peu mentale de il faut gagner quelque chose pour continuer à progresser, ça, ils ont du mal. Ils ont beaucoup de mal sous Pochettino et t'as vraiment l'impression qu'il a amené cette équipe, voilà, au plus haut qu'il le pouvait et qu'à un moment, il peut plus rien faire, quoi.
Alors, moi je suis, depuis des années, je suis toujours critique avec Pochettino et je veux pas les défendre ce soir, mais quand même, il faut dire que cette équipe, c'est une équipe très talentueuse, mais attention, depuis que Pochettino est là, a gagné la Première Ligue Leicester, Conte est arrivé entraîné la Première Ligue, il gagne. Il y a des entraîneurs qui sont venus, qui ont moins d'expérience que lui en Première Ligue, des équipes moins fortes que Tottenham qui ont gagné des choses, même Arsenal a gagné, qui était une équipe en totale baisse des formes, qui a gagné des titres à la FA Cup encore sous l'ère Wenger. Et puis dans ces périodes-là, Tottenham est arrivé à faire une finale. Si je ne me trompe pas, une seule finale.
Ouais, non, mais t'as raison. Il a fait des erreurs.
C'est quand même les limites de Pochettino. On ne peut pas donner quand même. Il y a une limite évidente de Pochettino qui est dans les gros moments de la saison ou dans les gros moments de certains matchs. Et je pense à l'élimination face à la Juve la saison dernière. Il n'arrive pas à transmettre ce qu'il faut à ses
c'est
joueurs.
Vrai, tu as raison.
Il y a une limite importante.
Mais tu penses pas que c'est lié aussi à la qualité de son effectif, des joueurs, c'est ce que disait Julien aussi.
La qualité de son
effectif.
Mais
on a de la qualité. L'effectif
d'Arsenal qui vient à l'FA Cup, c'est pas meilleur de celui de Tottenham.
Parce que la coupe, faut toujours aussi comparer un peu le parcours que tu peux avoir en coupe. Ça dépend aussi si tu prends un moment donné.
Si aujourd'hui, bon, c'est élimination au tir au but, ça peut arriver.
Ouais, c'est pas meilleur. En coupe, c'est toujours particulier. Si tu prends City ou si tu prends, je vais dire une bêtise.
Qui a gagné les coupes dans ces dernières années? Manchester, Arsenal. C'est des équipes quand même au niveau. C'est pas toujours City qui était l'équipe la plus forte de l'histoire ou Liverpool qui arrive
en finale. Non, mais aujourd'hui, par exemple, Julien. Juste pour finir, c'est ce que Pochettino disait hier après l'élimination contre Crystal Palace. Il disait aujourd'hui, c'est plus important pour nous de finir quatrième et de se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine que de gagner une Coupe d'Angleterre, par exemple, et de finir cinquième ou sixième. Et financièrement, ce serait une catastrophe pour eux de pas se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine et, encore une fois, qu'il y a un risque plus important que leurs meilleurs joueurs s'en aillent.
C'est ce qu'on disait de Wenger depuis 10 ans.
Voilà, exactement. C'est pareil. Mais après, tu retrouves beaucoup de points en commun entre la période Wenger où Arsenal faisait construire son Emirates et la période de Tottenham actuelle qui fait construire son stade, qui a donc pas d'argent pour à dépenser dans le marché des transferts, qui à un moment stagne dans sa progression. Il y a beaucoup de similarités, je trouve, entre Tottenham d'aujourd'hui et une période d'Arsenal.
Alors parlons de Manchester United aussi, alors qui sera donc l'adversaire du Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions et qui donc a encore gagné, victoire 3-1 face à Arsenal justement en cup cette semaine, ce week-end. Et Solskjaer, 8 victoires en 8 matchs, ça c'est dingue quand même. Hein. Et en plus là, il fait tourner face aux Gunners. Hein.
Ouais, c'est incroyable. On en parlait avec Pierrot, on était hier dans l'émission. Tout n'est pas encore parfait. Vraiment, tout n'est pas parfait. C'était pas parfait vendredi contre Arsenal. Ils sont très très efficaces en première période. Ils marquent 2 buts sur leurs 2 premières tirs cadrés. Et je crois qu'il y a 159 secondes d'écart entre le but de d'Alexis Sanchez et celui de Jesse Lingard juste après. Mais Solskjaer fait encore des trucs intéressants. Il met Lukaku sur le côté droit, par exemple, comme avec la Belgique contre le Brésil à la Coupe du Monde. Il fait jouer Lingard dans un rôle de faux numéro 9, mais qui peut prendre les espaces. Ils vont très vite en contre-attaque, ils jouent très bas, mais à des moments, ils pressent très très haut aussi et ils le font plutôt bien. Voilà, il y a des choses vraiment intéressantes. Après, ils ont un peu de réussite encore une fois. Romero sort 2 arrêts, notamment un sur la tête de Ramsey en début de deuxième période, qui est assez incroyable. Et ils s'en sortent encore et ils gagnent encore une fois. Donc tout n'est pas parfait, mais tu sens quand même qu'il y a la confiance qu'ils ont emmagasinée, tu les sens, quand je racontais hier, quand tu les vois sortir du vestiaire, ils sont chauds, les gars. Tu sens qu'ils sont super chauds. Tu sens que, limite, ils touchent presque plus terre. Et à la fin du match, je dis à Pogba, ça fait 8 victoires de suite, 8 sur 8. Et il me dit, mais t'es sûr? Ça fait 9, là, on en est à 9, non? Il est arrivé un moment où ils gagnent tellement qu'ils se rappellent même plus s'ils en sont à 7, à 8 ou à 9. Et ça, tu sens vraiment que c'est quelque chose qui leur fait beaucoup de bien.
Un mot sur Higuain aussi. Alors là, ça concerne pas mal de nos drôles de dames également. Première avec Chelsea aussi. Alors Chelsea qui a gagné, il a été comment Gonçalo là?
Il a été moyen, j'ai trouvé. Après, toute l'Angleterre regardait. Hein, c'était sûr, c'était la guest star de ce match un peu bidon contre Sheffield Wednesday, franchement, à Stamford Bridge. Et voilà, je trouve qu'il a essayé. Il va lui falloir un peu de temps, oui. C'est sûr. Mais il y a quelques coups, j'ai trouvé qu'il aurait pu faire mieux. Et il est sorti sous une pseudo ovation, j'ai trouvé, de Stamford Bridge. Voilà.
Putain, moi j'arrive pas à comprendre.
Mais c'était un match idéal pour lui.
Le choix, c'est que on sait que
c'est son soldat. Okay,
mais bon, Sarri a du mal avec les numéros 9. Hein, Simone, il en a eu une pléthore au Napoli de numéro 9 qu'il n'a jamais vraiment utilisé. Et c'est le seul vraiment du vrai numéro 9 avec qui ça a marché.
C'est le numéro 9. Quand il est en 2015, Sarri disait, avec ses mots un peu pas trop gentils, disait, si Gonzalo Higuain ne gagne pas le ballon d'or, c'est qu'il est un connard. Il a dit un couillon, hein.
Ah oui. Non, oui, c'est un couillon, donc.
Bon, voilà.
Non, parce que là, c'est pas pareil, tu vois.
Bah.
Non, c'est moins violent, quoi.
Ouais, mais c'était violent dans l'idée, c'est-à-dire.
Parce que Arthur Robert, du coup, me trouve d'autres qualificatifs que nous ne dirons pas, bien entendu, à l'antenne, mais par respect envers le CSA.
Il a eu qu'une saison?
Ah. Ouais.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Mais c'est la saison. Il a eu une saison, mais c'est la saison. C'est la saison du record.
Et j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu le départ d'Higuain, du coup, Sarri n'a plus jamais eu de numéro 9. Il n'a plus jamais eu aucun numéro 9.
C'est vrai que ça te dégoûte, hein.
Non, mais il a dû mettre Mertens comme poste de numéro 9, mais il avait d'autres choix. Il n'y a aucun autre numéro 9, vrai numéro 9, qui n'a eu grâce à ses yeux.
Parce que, après qu'il t'a goûté les miens,
Ça c'est chaud.
Dis à Madame Simonet, dis à Madame Romera que prochaine visite, elle aura le droit au Iberico de Bellota.
Ouais, ça c'est pas bien.
Mais comment on peut comparer le jambon italien à le jambon espagnol? C'est deux choses différentes.
À la fin de Simonet surtout.
C'est comme comparer, je sais pas, du whisky et du cognac. C'est pas pareil. C'est pas le même plaisir. C'est pas le ou du vin rouge, du vin blanc. C'est ça.
Ouais, ou du vinex, si tu parles du jambon allemand aussi. On parle avec du vinex.
Le jambon de la forêt noire est très très bon.
Tu vois, je voulais pas
m'impliquer
dans cette discussion. Ok, mais très bien, si j'ai des avocats autour de moi.
Non, mais. Très vite, Julien, ton cadeau, ton bidon du week-end.
Alors pour Mokador, j'ai choisi De Bruyne parce qu'il revient à son meilleur niveau. Il a été exceptionnel contre Burnley. Alors je sais c'était que Burnley, c'était que la Coupe d'Angleterre, mais il a vraiment été exceptionnel.
Ouais, parce que le match d'avant, il passe au
travers. Il passe un peu au travers, effectivement. Mais c'est la bonne période pour lui pour revenir à son meilleur niveau et surtout pour Manchester City de l'avoir à ce genre de niveau-là.
Qu'est-ce que tu fais avec ton micro là, Julien là?
Rien.
Bah si, c'est si, là, ça tape depuis tout à l'heure.
Tu peux arrêter, Julien, s'il te plaît, de concentrer un
c'est
peu.
C'est pas moi, non, c'est le fil de mon micro.
Ouais, c'est ça.
Arsenal dimanche notamment, ce sera le bon test pour voir si De Bruyne est vraiment revenu à son meilleur niveau. Et puis mon bidon, nos amis de West Ham battus par Wimbledon en Coupe d'Angleterre, 4-2, jolie humiliation.
Non, on a dit 4-2.
4-2, mais ouais. Et voilà, donc West Ham comme Everton aussi battu par Millwall en Coupe d'Angleterre, ça fait partie des gros clubs de Première Ligue éliminés par des équipes de
D'ailleurs, un match qui est parti totalement en sucette, je crois, non, ce Millwall Everton là.
Ouais, j'aurais voulu en parler, on n'a pas trop le temps, mais un peu le retour des jours un peu noirs du football anglais avec des bagarres, des insultes, un peu tout ça, un mec qui s'est fait
ouvert
le visage par un coup de couteau d'un supporter de Millwall. Mais quand tu vois la vidéo d'une des bagarres dehors là, c'est
Millwall c'est violent, non?
Oui. Ça a toujours été
historiquement c'est un
Millwall West Ham.
Ah oui.
Ouais, il y avait des bons fights.
Millwall c'est où hein, Julien?
C'est dans le sud de Londres.
C'est à Londres.
Dans le sud de Londres et c'est déjà le quartier en lui-même est assez et assez violent et assez violent et après c'est avec les supporters voilà.
Merci Julien, on va filer en Allemagne mon lorto.
Mais oui.
Avant.
Il y a oui.
On va reprendre nos esprits avec le drôle de dame, avec Pierre Ducrot et avec Jonathan McCarty. À tout de suite. En compagnie de Pierre Ducrot, de Jonathan McCarty et de nos drôles de dames, place à l'Allemagne. 19e journée de Bundesliga. Dortmund qui a battu Hanovre 5-1. Le Bayern qui a battu Stuttgart 4-1. Victoire de Gladbach 2-0 face à Augsbourg. 2-2 entre le Hertha et Schalke 04. Le Fortuna Düsseldorf qui a perdu 4-0 face à Leipzig. Et puis le Werder et l'Eintracht qui ont fait match nul 2 partout. Jingle.
5e les Chinois, 50.100. La France est donc médaillée d'argent de cette finale, messieurs, de trampoline synchronisée. Très bonne nouvelle pour le moral de la gym française.
Et on ne me compare pas à Pierre Pula, j'ai pas encore son âge. Que je respecte par ailleurs.
Non, mais il a eu ton âge.
C'est beau, c'est beau.
Oui, par ailleurs.
Comment t'arrives à commenter tous ces sports différents? C'est pas évident.
Non, mais patinage,
attends, mais moi, tu me mets au trampoline synchronisé.
Non, mais c'est une impression.
Je suis incapable.
Il est pas tout seul à l'intérieur. Il est pas
c'est dur.
T'es pas obligé de n'être spécialisé que dans la Bundesliga, première division du football allemand. Tu peux aussi avoir d'autres.
La question, c'est comment tu te spécialises dans le trampoline synchronisé, surtout.
Ouais, et puis, il y a pas que celui-là de sport que tu fais en plus.
Ouais, la gymnastique, le
jingle, c'était.
Rien que la gym, t'as déjà 7 disciplines différentes, avec la rythmique, avec l'artistique, avec le trampo, avec le tumbling, avec l'aérobic, enfin bon, tu vois, donc là déjà, t'as
du l'aérobic.
Ah, je connais ça, l'aérobic. Ah, oui. Véronique et David.
Bah oui, non, mais quand tu vas au sport, ils se rincent l'heure en regardant les cours d'aérobic.
Non, mais bravo, David, c'est beau.
Merci David, bonne soirée.
Avis
tranché de David Lorto, le Bayern s'impose 4-1 face à Stuttgart, mais selon toi, les Bavarois doivent faire mieux et plus.
Les Bavarois doivent faire mieux et plus.
Après un 4-1 face à Stuttgart.
Oui, mais c'est du trompe-l'œil.
Pas du trompolisme.
Non mais
trompe-l'œil synchronisé.
L'excellentissime Joshua Kimmich qui est comparé dans la presse allemande ces derniers jours et ces derniers temps et de plus en plus à Philippe Lahm, et laissez-moi vous dire que ça n'est pas usurpé cette comparaison. L'excellent Kimmich disait avant le match de ce week-end. Il faut qu'on montre, donc déjà il faut plus perdre de points en route. Évidemment le Bayern qui a 6 points de retard ne peut plus se permettre de perdre de points en route. Ça ok, tout le monde est d'accord. Mais Kimmich disait aussi, il faut que nous montrions sur le terrain sportivement que nous convainquions en étant le Bayern. Sous-entendu, le Bayern qu'on a toujours connu, celui qui impressionne par sa puissance, qui convainc simplement parce qu'il rentre sur le terrain ses adversaires et qui gagne ses matchs quelque part, simplement en étant là. Eh bien Kimmich, aujourd'hui, quand il dit ça, il y a quelque part forcément une pointe de doute dans son esprit, parce que moi je voudrais, en prévision de la Ligue des Champions qui arrive, prendre un peu la température et vous donner un peu la température aussi en Allemagne. Autant Dortmund, on en dira sans doute un mot tout à l'heure, est florissant et flamboyant et convaincant, autant le Bayern.
N'est absolument pas un club qui impressionne aujourd'hui, n'est absolument pas un club qui arrive à faire des matchs pleins sur 90 minutes. Et Niko Kovac, pour l'instant, même s'il a repris du crédit depuis décembre, et ils en sont, je crois, à 6-7 victoires d'affilée, le Bayern est sur une belle série, le Bayern ne convainc absolument pas aujourd'hui sur le terrain, et le match contre Stuttgart ce week-end, contre un club donc très mal classé et menacé de relégation, ça a été une ouverture du score rapide, très bien, pas de souci. Derrière, on se relâche, et on se fait revenir au score, on aurait même pu être mené 2-1, on remet un coup d'accélérateur, ok, très bien, en deuxième période, et on gagne largement. Mais le Bayern aujourd'hui, alors je sais pas s'il faut faire des comparaisons avec d'autres grands clubs comme le PSG, comme le Real, comme le Barça, qui seront prêts sans doute au bon moment. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si on disputait le huitième de finale contre Liverpool, là, en cette fin janvier, le Bayern n'a pas les arguments sur 180 minutes pour lutter contre les top clubs européens. Parce que, même s'il a trouvé son 11 type à peu près aujourd'hui, il a deux milieux défensifs qui fonctionnent bien, il a Goretzka en 10, c'est une belle trouvaille, il a Lewandowski qui continue à marquer, il a Müller sur la droite qui remplace Robben, ça marche à peu près, il a Kingsley Coman qui remplace Ribéry à gauche, ça marche à peu près, ok, il a trouvé son 11, il a trouvé son système. Mais au-delà de ça, le Bayern a des absences incroyables et aujourd'hui n'est pas en mesure de rivaliser avec le Borussia Dortmund et donc, à mon sens, aujourd'hui n'est pas en mesure de rivaliser non plus avec Liverpool.
Alors Julien, on va se tourner vers toi forcément, mais Liverpool, ils ont aussi une obsession là, c'est la Première Ligue, c'est le championnat.
C'est vrai. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont plus, ils sont éliminés de la Coupe de la Ligue, ils sont éliminés de la Coupe d'Angleterre, donc ils ont maintenant plus qu'un match par semaine jusqu'à. On joue en milieu de semaine en Première Ligue, mais sinon ils ont beaucoup plus de temps pour préparer les rencontres qui vont arriver en Ligue des Champions notamment et les gros matchs de championnat qu'une équipe comme City par exemple qui est encore dans quatre compétitions cette saison.
Ok. Tu voulais évoquer également Mario Götze avec Dortmund, oui. Alors, j'aime bien son positionnement à Götze.
Ah bah Götze, numéro 9. Alors vous parliez tout à l'heure de Benzema qui est capable d'être à la fois passeur, meneur de jeu, finisseur, etc. Götze, c'est pas forcément tout à fait le même profil, mais on revient de tellement loin avec ce jeune homme, 26 ans. Aujourd'hui, les sympathisants de Dortmund, les supporters de Dortmund au sens large, voudraient qu'il prolonge son contrat qui court jusqu'en 2020. Rendez-vous compte le chemin qu'il a fallu faire alors qu'il était totalement absent de la scène compétitive encore la saison dernière, Götze. Comment Favre a réussi à remettre ce garçon dans les clous, c'est incroyable. Götze aujourd'hui est le titulaire au poste de numéro 9 parce que Paco Alcacer, qui n'est pas au top encore physiquement, est son remplaçant. Götze qui se décrit lui-même comme un Spielerische Neun, c'est-à-dire un numéro 9 joueur qui joue. C'est-à-dire qu'il joue avec ses partenaires, qu'il joue avec le numéro 10, avec Marco Reus qui est autour de lui, avec les ailiers aussi, interprète ce rôle de numéro 9 de façon formidable. Alors il marque très peu, il doit en être à 2 ou 3 buts cette saison, mais c'est un joueur qui a retrouvé de la compétitivité, et ça c'est incroyable, par rapport aux profondeurs dans lesquelles il était rendu ces derniers temps, et ça participe de ce Dortmund record qu'on a aujourd'hui. Dortmund, c'est 48 points en 19 matchs, messieurs. Jamais le Borussia n'avait réussi ce bilan statistique dans les 52 années de son histoire en Bundesliga. Et c'est aussi parce que Götze a trouvé aussi sa place.
Des stats de dingue quand même. Hein, non. Je regardais 2 buts, 3 passes D en 17 matchs depuis le début de saison.
Non, au niveau des chiffres, c'est pas énorme, mais sa capacité à jouer avec les autres et à avoir retrouvé, j'insiste là-dessus, de la compétitivité physique, ne serait-ce que physique, ça déjà, ça parle. Et quand vous avez les supporters de Dortmund qui disent, alors certes, c'est un chouchou, mais qui disent, il faut le prolonger alors qu'il est en contrat que jusqu'en 2020, c'est déjà une victoire énorme pour lui, quoi.
Ouais. C'est pas mal hein, cette histoire de Götze. C'est vrai qu'à un moment on l'avait un peu perdu, là il revient bien.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal pour lui. Surtout après c'est un profil où je pense qu'il ne marquera jamais énormément.
Voilà,
de quoi.
Exactement.
C'est surtout qu'autour de lui ça monopolise beaucoup d'attention et forcément ça profite à des garçons comme Guerrero, comme Sancho, comme Reus, etc. Quoi.
Das Kador, Das Bidon.
Alors le Kador, j'insiste sur Peter Bosch. Hein. Vous souvenez cet entraîneur qui avait entraîné l'Ajax
d'ailleurs, non?
Oui, qui a fait un passage trop rapide à mon goût là-bas, dans la Roure, et avec Leverkusen, il vient de remporter sa première victoire. Entraîneur ultra offensif, ça va être vraiment une joie de le retrouver le week-end prochain parce qu'il y a deux chocs explosifs en Bundesliga le week-end prochain. Leverkusen recevra le Bayern et Francfort, rendez-vous contre, recevra Dortmund en même temps samedi à 15h30. Bosch a remporté sa première victoire avec Leverkusen et Il dispose d'une armada offensive incroyable. Je vous rappelle qu'ils sont encore en Europa League, ce club-là. Havertz, Folland et Brandt ont marqué ce week-end. Et Bosch propose un jeu très offensif, comme il proposait aussi aux Pays-Bas. Je suis sûr que ça va marcher avec Leverkusen, qui va réussir une belle deuxième partie de saison. C'est et qui ouais. peut aller loin en Coupe d'Europe.
C'est quoi une belle saison pour Leverkusen?
Bah,
ça serait un peu du con, pardon, comme d'habitude, non?
Bah,
non, mais c'est un peu l'histoire de ce club.
Ils partent de loin quand même. Ça serait d'accrocher une place européenne, mais il y a une énorme concurrence cette saison quand même en Bundesliga.
Ton ouais. bidon?
Bah, Kayubi, le Brésilien d'Augsbourg. 22 jours d'absence pendant la trêve et on l'a attendu 22 jours pour la reprise.
Ah, pourquoi il est pas rentré, le mec?
Il est pas rentré. Alors, Augsbourg vient de le libérer de son contrat aujourd'hui, de se séparer de ce joueur parce qu'on n'en pouvait plus au niveau de la communication et au niveau sportif. Kayubi, qui avait fait de super choses avec Augsbourg ces derniers mois et ces dernières saisons, a été, entre guillemets, viré, là. Il est rentré du Brésil et on l'a retrouvé en boîte de nuit. Alors, c'était une boîte dans laquelle il avait l'habitude d'aller. Je veux pas insister sur cette histoire, mais à Augsbourg,
c'est,
on a trouvé
plus. C'est intéressant.
Non, il avait combien de jours de retard?
22. Enfin, 21. Il est rentré avec 21 jours
le FC Hollywood
qui était le Bayern, en fait, s'est déplacé de quelques dizaines de kilomètres, et on est toujours en Bavière, mais c'est Augsbourg aujourd'hui parce que on a mis un temps fou.
Mais pourquoi tu dis, je vais pas rentrer dans les détails, il y a des trucs un peu salaces là dans l'histoire?
Non, c'est pas ça, mais je veux dire c'est le sportif qui compte. Ça a été un très bon attaquant de Bundesliga. Aujourd'hui, il est hors sujet et il a été débarqué par son club.
Ouais, le sportif, quand t'as 22 jours de retard, enfin, c'est même plus du retard là, c'est...
Oui, alors on a parlé dans un premier temps de raison personnel, on l'a protégé à Augsbourg, on a et puis finalement on a fini par craquer, et aujourd'hui on en
on a tous connu dans des tout groupes un avion loupé de
oui, mais là, retard,
là, 3, mais, 22 mais la 22
beaucoup, quand
il
quand
a loupé beaucoup d'avions, quoi.
Merci beaucoup,
beaucoup d'avions.
Ouais. Merci beaucoup, David. Tiens, je vous rappelle juste que c'est le retour du championnat universitaire de foot à 5 en France. Alors il y a RMC, la Fédération Française du Sport Universitaire, le 5, et RMC Sport qui lance la 4e édition de la RMC 5 Cup. Alors les inscriptions, c'est sur le site rmc.fr pour les étapes qualificatives qui sont organisées sur 10 semaines dans 16 villes de France, France même, et Franche-Comté aussi d'ailleurs. Prochaine étape, Stanis, le 31 janvier.
Ah, c'est presque aussi compliqué que la National League, ton truc là.
Ouais, tu trouves?
Ouais, parce que là, j'ai pas tout
compris. Non, en gros, là, t'as la prochaine étape qualificative, c'est à Nice, c'est le 31 janvier, vous pouvez vous inscrire sur rmc.fr, saoule pas, ok? Déjà que j'ai du mal à lire le truc.
Allez.
Merci beaucoup, les gars. Merci,
adios,
les gens de
Dame.
Merci beaucoup, Pierre Ducrot. Merci, Paul Vexu, Arthur Robert et Suzanne Folly, à toutes les équipes techniques et éditoriales, sans qui nous ne n'existerions pas.
Bien sûr.
Entendu, ne pourrions pas.
Ou alors, on existerait beaucoup plus mal.
Alors, on nous entendrait beaucoup moins bien.
Voilà, exactement.
Beaucoup moins bien aussi. Merci beaucoup, bonne soirée, bisous, ciao.